Bonjour à tous, à tous les fidèles et à ceux qui sont moins et qu'on ne voit pas chaque fois. Mais ça fait rien, ils sont quand même les bienvenus. On continue avec notre cycle de philosophie des sciences. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir François Dubuisson pour nous parler de Comte. Alors je dirais François Dubuisson, il est doctorant et assistant au département de philosophie de l'Université de Liège. Et il vient de m'expliquer que son sujet à lui, c'est plutôt la philosophie du langage. Mais je pense qu'en effet, il va vraiment nous ouvrir des horizons nouveaux sur Comte. Juste deux mots, si vous voulez, pour vous rappeler, pour me dire un tout petit peu moi-même où j'en suis. Pour moi, Comte, ça évoque beaucoup de souvenirs, je dirais presque de secondaire et un petit peu après. Et donc, c'est un nom qui était effectivement tout à fait associé à deux idées. Une idée de classification et l'idée qu'il était le porte-parole du grand courant scientiste qui a vraiment pris son essor, je dirais, à la fin du XIXe siècle. Alors, je suis tout à fait certain que notre conférencier d'aujourd'hui va nous aider largement à dépasser ce genre de schéma un peu primaire pour nous faire une idée beaucoup plus précise et beaucoup plus intéressante du rôle qu'a joué et de qui était réellement Auguste Comte. Alors, comme moi, j'y connais rien, je me tais et je lui passe immédiatement la parole. Merci beaucoup encore. Oui, quand même, j'ai oublié de vous rappeler à quel point notre conférencier d'aujourd'hui a fait preuve de conscience professionnelle jusqu'à un niveau tout à fait étonnant, pas seulement en préparant l'exposé d'aujourd'hui, mais vous l'avez sans doute remarqué, il a été présent aux premiers exposés du cycle pour se pénétrer de l'atmosphère et de la manière dont ça se passait parmi nous. Je pense que tous les conférenciers ne poussent pas vraiment la conscience professionnelle jusque-là, donc je voudrais vraiment encore très chaleureusement le remercier pour ça.
Merci à vous. Alors j'espère que ça va aller au niveau du son. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? D'accord. Très bien. Alors je fais un petit PowerPoint, mais en fait assez sommaire. Il n'y aura que quelques dias qui seront plutôt là comme des supports visuels tout au long de mon exposé. Donc celle-ci, par exemple, je vais la laisser un certain temps. Je la commenterai plus tard, mais enfin, elle est déjà là. Vous pouvez déjà jeter un coup d'œil. Alors tout simplement pour commencer peut-être par le début, c'est toujours mieux. Je vais essayer de présenter très rapidement. Auguste Comte, l'homme, la vie d'Auguste Comte, en quelques points, finalement, en épinglant quelques éléments biographiques peut-être intéressants malgré tout, mais assez rapidement avant de rentrer plus dans le vif du sujet. Alors pour le situer, donc Auguste Comte, c'est un philosophe français du XIXe siècle, en fait né en 1798, donc le siècle attendrait encore deux ans, mais né en 1798, mort en 1857. Donc vous voyez, c'est ce contexte du XIXe siècle français où il y a énormément de changements politiques, évidemment. Il y a eu la Révolution, il y a l'Empire, il y a la Restauration, il y aura la Seconde Révolution, etc. Donc c'est un contexte de bouleversement politique qui le marquera énormément. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais c'est aussi le contexte du romantisme. Il est évidemment contemporain de Victor Hugo, notamment. Et tout ça n'est pas du tout... sans conséquence. Alors, Auguste Comte, c'est quelqu'un qui a été secrétaire de Saint-Simon, du comte de Saint-Simon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'était un réformateur social, en fait, qui avait une doctrine de réforme sociale qui a eu beaucoup de succès de manière posthume, donc le saint-simonisme. Et il a collaboré, Auguste Comte a collaboré avec lui tout un temps avant de prendre finalement son envol de son côté et de rompre avec son maître. Alors, il faut savoir que Auguste Comte n'a pas eu une vie forcément facile. Il y a eu un certain nombre d'épisodes comme ça un peu difficiles. Par exemple, il a fait un séjour de 8 mois dans la maison de santé du docteur Jean-Étienne Esquirol, donc qui est un célèbre psychiatre français. Et donc, il a fait un séjour de 8 mois. Et il en est sorti en 1826, en 2 décembre, pour l'anecdote, un 2 décembre comme aujourd'hui. Et il en est sorti avec la mention « non guéri ». Et effectivement, quelques mois plus tard, il se jettera dans la Seine depuis le pont des Arts en avril 1827, mais il sera heureusement repêché. D'ailleurs, juste mentionné comme ça, à l'époque on parlait dans son cas d'orage cérébral, ce qui est quand même évidemment une expression un peu plus jolie que dépression. On peut en convenir. Alors, mais c'était quelqu'un de très engagé socialement, en réalité, quelqu'un de gauche, pour le dire très vite. Et notamment, il était en faveur de l'instruction populaire. Il proposait un cours d'astronomie à destination des ouvriers de Paris. Donc c'était un cours tout à fait ouvert qui donnait à la mairie du 3e arrondissement de Paris, et pendant 18 ans. Il publiera d'ailleurs, vous le voyez déjà ici dans la liste, un traité d'astronomie populaire en 1844 qui reprend cet enseignement. Alors, il soutiendra, donc je l'ai dit, il y a beaucoup, c'est l'époque de tous les changements politiques, il soutiendra en fait, peut-être étonnamment, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Alors, c'était aussi en 2 décembre, pour l'anecdote, ce coup d'État. Et c'est ce qui causera sa rupture avec Émile Littré. Vous connaissez peut-être Émile Littré, qu'on pourrait appeler Monsieur Dictionnaire. Il est connu pour Le Littré, le dictionnaire Littré, qui était en fait un partisan du positivisme comtien, un fervent admirateur de Comte, un ami. Il a contribué à faire connaître le positivisme, Émile Littré, jusqu'à ce moment donc où ils ont rompu, finalement. Ils ont rompu leur amitié, notamment à cause de l'inflexion religieuse qu'a pris la pensée de Comte. Ça, évidemment, je vais y revenir par la suite. Alors, je vous ai dit qu'il a connu beaucoup de difficultés. Un peu comme Rousseau, il s'estimait vraiment persécuté. Et il critiquait les savants en place, qui étaient selon lui remplis de préjugés intellectuels. Et il dénonçait d'ailleurs ce qu'il appelait la pédantocratie académique, qui, selon lui, promouvait les médiocrités ambitieuses. Et en effet, il perdra, lui, ses différents postes et n'obtiendra pas la chaire pour laquelle il avait postulé. Donc il sera dans les plus grandes difficultés financières, s'estimant victime d'une grande injustice. Et il sollicitera l'aide financière de ses partisans afin de pouvoir continuer son œuvre intellectuelle. Donc parfois, c'est assez amusant quand vous lisez des ouvrages de Comte. Il va y avoir une petite partie au début ou à la fin, où il appelle finalement ceux qui ont aimé son livre à lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse continuer à survivre. Alors il fut un grand ami du philosophe anglais John Stuart Mill, donc le père finalement de l'utilitarisme. Celui-ci le soutiendra lors de ses difficultés, et il a d'ailleurs écrit un ouvrage intitulé « Auguste Comte et le positivisme ». Voilà pour une présentation biographique très très sommaire, évidemment ce n'est pas le plus important ici. Malgré tout, une grande remarque générale sur la vie, mais en fait surtout sur la pensée et l'œuvre de Comte, on reconnaît en général qu'il y a eu dans la pensée de Comte deux phases, deux périodes bien distinctes. La première phase est dite phase philosophique ou scientifique. Aujourd'hui, nous dirions simplement épistémologique, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment toute la première partie de l'œuvre de Comte où il s'occupe de la philosophie des sciences, de la classification du système des sciences, que je développerai par la suite. Et donc cette phase correspond surtout au cours de philosophie positive, vous voyez ici, donc c'est, qui a été publié de 1830 à 1842. Je ne sais plus exactement combien il y a, je pense qu'il y a une soixantaine de leçons, donc c'est vraiment une œuvre très importante. Alors de nouveau, ça correspondait à un cours qu'il donnait effectivement, c'est un cours qu'il donnait dans son appartement parisien, cours de philosophie positive, et donc il a publié en plusieurs volumes. Et donc là, il y a une seconde phase, une seconde partie de sa pensée qui est dite religieuse, puisqu'elle correspond au développement de ce qu'il a appelé la religion de l'humanité. Vous l'avez peut-être déjà lu ici. Et ça environ à partir de 1846 et jusqu'à sa mort. Bon, en effet, c'est pas ce qui nous intéressera le plus aujourd'hui, mais je le dis quand même déjà. En effet, Auguste Comte a vraiment fondé une religion, cette religion de l'humanité, religion universelle, dont il était à la fois le fondateur et le grand prêtre. Il se disait le grand prêtre de la religion. Alors bon, il disait que c'était en fait un titre très humble qui voulait dire premier serviteur de l'humanité. Alors il écrit un catéchisme positiviste, comme vous pouvez le voir ici, catéchisme positiviste ou sommaire exposition de la religion universelle en 1852. Alors il érige des sacrements, il parle d'un sacerdoce nouveau, donc vraiment tout un vocabulaire religieux qui se fait jour, et il érige un calendrier positiviste qui comporte 13 mois et qui comporte le nom des grands savants, dont Descartes, par exemple. Il y a un mois Descartes dans le calendrier de Comte. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, en 1849, le 7 mai 1849, il datait une de ses lettres, une des lettres qu'il envoie à un disciple, il la date du 15 César 61. Vous voyez, il applique vraiment son propre calendrier. Alors, il faut savoir que cette entreprise qui, bon, pourrait sembler un peu pittoresque comme ça pour nous, une église positiviste, ça nous semble un peu étonnant, mais ça a connu une certaine postérité, en particulier au Brésil, où à Porto Alegre notamment, il existe des temples positivistes, encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous savez, mais sur le drapeau brésilien, on peut lire la devise « Ordem et progresso », ce qui veut dire « ordre et progrès », et qui était une des devises d'Auguste Comte. Très importante d'ailleurs, j'y reviendrai aussi, puisque en fait elle a une importance épistémologique. Alors de nouveau, pour l'anecdote, je passe assez vite, son ancien appartement parisien a été transformé en chapelle positiviste. Je dis ça parce que si ça vous intéresse, vous pouvez la visiter, c'est un musée, donc c'est dans le 3e arrondissement, rue Payenne, et où on peut voir le fameux calendrier. Alors, il est vraiment évidemment rentré réellement dans cette phase religieuse, et en 1851, il écrivait même à un ami « Je suis persuadé qu'avant l'année 1860, je prêcherai le positivisme à Notre-Dame comme la seule religion réelle et complète ». Donc il croyait vraiment évidemment au succès de son entreprise. Malheureusement, il n'a pas vécu jusqu'en 1860. Alors, juste un dernier élément biographique qui est quand même intéressant parce que ça revient souvent et dans les écrits de Comte lui-même, c'est qu'il y a eu un moment vraiment déterminant, donc lors de ce changement, ce passage de la première phase à la seconde. On s'accorde à dire que ça, et lui-même le dit, sa passion avec Clotilde de Vaux, donc c'est une femme qu'il est tombé éperdument amoureux, et cette passion qui était fulgurante, qui a duré assez peu finalement, parce qu'il la rencontre fin 1844, il passe toute l'année 1845 avec elle, et il l'appelle lui-même cette année l'année sans pareil, et elle meurt en fait de maladie en 1846. Alors donc ce n'est pas anecdotique, parce que réellement, il se mettra à lui vouer un culte quotidien, à lui faire une place dans sa religion, et il reconnaît lui-même que ça a été un bouleversement dans sa pensée. Ça lui a pris l'importance de l'amour, le fait de l'idée de devoir développer une morale et une religion, et pas seulement une politique basée sur la science. Et donc il y a vraiment un infléchissement de sa pensée après cet épisode. Alors, on peut malgré tout se poser la question, entre la première phase et la deuxième phase, est-ce que Comte avait prévu ce changement ? Est-ce que Comte savait qu'il en arriverait à une religion ? Alors, moi je dirais oui et non. C'est-à-dire que Comte, dès ses premières œuvres, a toujours dit que la partie, et ça, c'est peut-être quelque chose déjà qu'on ne sait pas, on dit il est très scientiste, il met la science avant tout, pas du tout. En fait, il a toujours dit que la partie scientifique n'était qu'une partie préparatoire par rapport à la partie politique de son œuvre. Ce qu'il visait, Auguste Comte, c'est avant tout une politique, mais qui devait s'appuyer sur la science. Donc il avait prévu ce passage finalement de la science à la politique. Par contre, le fait que cette politique se transforme en religion, en morale et en religion, ça je pense que ça relève de l'événement imprévisible et que lui-même ne savait pas qu'il y aurait un tournant religieux dans sa pensée. Donc, comme je vous le disais, c'est l'élaboration d'une politique qui de tout temps a été le souci principal de Comte. Il considérait vraiment le reste comme étant préparatoire. Il a même regretté à la fin de sa vie que son cours de philosophie positive, donc qui est très épistémologique finalement, qui parle des sciences, de la classification des sciences, de la fameuse loi des trois états, que nous verrons plus tard, eh bien, il regrette que ce cours de philosophie positive l'ait en fait détourné trop longtemps de l'essentiel qui était l'élaboration du système politique. Et en particulier, il pense que l'importance et le succès qu'ont eu le cours sont à l'origine d'une équivoque assez dommageable, c'est que tous ces premiers partisans, comme par exemple Émile Littré ou John Stuart Mill, n'ont retenu que ça de Comte, étaient convaincus que le véritable positivisme, c'était le positivisme exposé dans le cours, et du coup, ils n'ont pas compris le virage qu'a pris Comte ensuite, et c'est pour ça qu'il a perdu pas mal de ses partisans à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment, depuis le début, c'est pas une lecture rétrospective, dès 1824, oui, c'est encore dans ses premières œuvres, c'est bien avant le cours. Il écrivait dans une lettre qu'il proposerait deux types de travaux, les travaux d'ordre scientifique et les travaux d'ordre politique, en précisant bien que les premiers ne doivent servir qu'au second. Les premiers ne sont justifiés que par leur utilité, alors il dit leur utilité pour l'espèce. Évidemment, quand il parle de l'espèce, il parle de l'humanité, et c'est un vocabulaire évidemment du 19e qui est parfois un peu étonnant, parfois un peu amusant. Donc il parle souvent de l'espèce par rapport à l'individu, en parlant évidemment de l'ensemble de l'humanité. Et dans le discours sur l'ensemble du positivisme, donc vous voyez ici qu'il y a un ouvrage de 1848, il écrira « Le positivisme se compose essentiellement d'une philosophie et d'une politique qui sont nécessairement inséparables, comme constituant l'une la base et l'autre le but d'un même système universel, où l'intelligence et la sociabilité se trouvent intimement combinées. » Donc on peut dire que finalement, une première chose à remarquer par rapport à Auguste Comte, qui est peut-être étonnante, c'est qu'en général, on se dit qu'on fait une philosophie des sciences parce qu'on est, préoccupé par la question du vrai. On fait une philosophie des sciences parce qu'on veut déterminer ce qu'est le vrai. Comte, lui, il fait une philosophie des sciences pour déterminer finalement ce qu'est le bien, ce qu'il faut faire et comment mener une politique qui soit réellement sociale. Et donc cette philosophie des sciences chez Comte, elle est une première étape, plutôt qu'un accomplissement. Alors, donc je vous ai affiché ici les quelques œuvres, il n'y a pas tout, mais quelques œuvres, quelques-unes des œuvres principales d'Auguste Comte. Vous voyez, c'est des titres parfois assez intéressants et voire assez amusants pour nos yeux un peu anachroniques comme ça. Donc sommaire appréciation sur l'ensemble du passé moderne, plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. Là, on voit déjà un peu l'influence de Saint-Simon, donc le cours de philosophie positive. Et tout à la fin de sa vie, il y aura le système de politique positive ou traité de sociologie institué dans la religion de l'humanité, catéchisme positiviste ou sommaire exposition de la religion universelle. Ça, c'est vraiment le tournant religieux. Mais alors, moi, je veux attirer votre attention sur les deux discours. Vous voyez au centre, moi, je les ai un petit peu séparés, mais il y a les deux discours. Le discours sur l'esprit positif, qui était donc un préambule à son traité d'astronomie populaire, dont je vous ai parlé, qui reprenait ses cours d'astronomie. Et ce discours sur l'esprit positif a vraiment une visée de synthèse du cours de philosophie positive, qui résume le système. Et donc, c'est vraiment, finalement, l'ouvrage épistémologique type d'Auguste Comte, qui porte vraiment sur la philosophie des sciences, en reprenant la loi des trois états, en reprenant la classification, donc en résumant vraiment le cours de philosophie positive. Et en fait, on voit que le tournant chez Comte se passe d'un discours à l'autre. Quand le second discours, qui n'est que 4 ans plus tard, le discours sur l'ensemble du positivisme, là vraiment, il n'est plus du tout question, ou très peu, de science et d'épistémologie. On entre vraiment dans la deuxième phase de sa pensée. Il développe davantage le côté social et moral du positivisme. Alors cet ouvrage comporte une théorie du pouvoir spirituel, de l'opinion. Il aborde la question du communisme, présente une conception de la femme, une conception de l'art. Donc on voit vraiment qu'on est dans un autre type de sujet. Donc évidemment, c'est plutôt le premier de ces deux discours qui nous intéressera aujourd'hui et que je citerai à plusieurs reprises. Alors, on connaît tous de Comte, évidemment, ne fût-ce que le terme de positivisme. On sait que Comte est un positiviste qui a développé le positivisme, qui aura évidemment une postérité au XXe siècle, notamment avec le positivisme logique, le cercle de Vienne, Carnap, etc. Mais finalement, qu'est-ce que le positivisme au sens de Comte? Qu'est-ce que le positivisme contient? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'est pas, tout d'abord? Pour un peu y voir plus clair, qu'est-ce que le positivisme n'est pas? Alors, on entend souvent par positivisme l'idée selon laquelle il faut s'en tenir uniquement à l'observable et rejeter tout le reste. Et c'est évidemment une assez grande simplification. Il n'y a évidemment pas que ça. Comte dit lui-même, et précise tout de suite, que le véritable esprit positif, donc le véritable positivisme, se situe entre le mysticisme et l'empirisme, mais qui sont selon lui toutes les deux des aberrations. Le mysticisme et l'empirisme sont deux aberrations également funestes. Alors nous parlions déjà lors de la première conférence de ce cycle de cette question importante du rapport entre la théorie et les faits et du rôle que l'observation joue finalement dans la science. Il compte ainsi sur le fait que l'observation est certes très importante, mais ne doit pas être faite au hasard, au risque de n'être qu'une stérile accumulation de faits incohérents. Elle doit impérativement être guidée par une théorie préalable. Donc là, déjà, première chose, qui est peut-être un petit démenti chez Comte, c'est que son positivisme n'est pas un empirisme, du tout. Il est vraiment très critique à l'égard de l'empirisme. Il dit que l'observation doit vraiment être déterminée entièrement par la théorie, et que la théorie doit être première et doit guider les investigations. Il dirait qu'une véritable investigation positiviste, elle recherche les lois. Elle recherche à déterminer les lois de la nature et pas simplement à accumuler des faits. Donc des observations aléatoires, il appelle ça la pure érudition. Il dit c'est un amas de connaissances réelles mais incohérentes. Donc en fait, il s'agit bien de faire un usage combiné du raisonnement et de l'observation. Mais le raisonnement et la théorie sont premiers. En d'autres termes, les faits sont la matière et non l'objet du savoir. Et donc l'empirisme absolu est en fait impossible selon lui, il ne mènerait à rien. Il faut vraiment toujours essayer de déterminer, enfin de trouver les lois. Alors, Pierre Macheret, qui est un commentateur de Comte, que je reprends dans la biographie que j'afficherai à la fin, définit pour sa part le positivisme kantien comme un effort pour unir les sciences et la politique par l'intermédiaire de la philosophie, tout à l'opposé d'un scientisme. Donc, deuxième chose, je disais, le positivisme kantien n'est pas un mysticisme, on s'en serait douté, n'est pas un empirisme, mais n'est pas non plus un scientisme, en réalité. Effectivement, je l'ai déjà dit, la science est chez Comte entièrement subordonnée à la politique. Elle n'est absolument pas au-dessus du reste. Et il dit même que ça je vais y revenir dans quelques minutes, la science doit être en fait dirigée par les prolétaires, par le peuple, et ne doit pas du tout être laissée aux savants. Il y a donc vraiment une dimension sociale chez Comte, une dimension même en fait un peu utilitaire. Donc il dit vraiment la science, ça ne sert à rien de faire de la science pour la science, la science doit servir le peuple, doit servir l'action sociale. Donc on peut dire que la science est assez utilitaire chez lui, cette vision utilitaire. Dans une certaine mesure, bon, j'y reviendrai, et on peut penser évidemment déjà à l'utilitarisme de John Stuart Mill, mais malgré tout, et là la question est peut-être un peu plus délicate, tout le monde n'est pas d'accord. Gilbert Ottois, par exemple, vous dira que le positivisme de Comte est un pragmatisme. C'est un pragmatisme, puisqu'effectivement, il vise l'utilité avant tout, et que ce serait la seule visée de la science. Pour ma part, je pense que c'est rabattre le positivisme de Comte sur le pragmatisme, qui en plus, en tant que théorie, lui est postérieur, donc c'est un petit anachronisme, est un petit peu rapide, parce que Comte conserve vraiment la distinction entre la théorie et la pratique. Le pragmatisme aura tendance à gommer cette distinction, à dire la théorie pour la théorie, ça ne sert à rien, voire ça n'existe pas. C'est vraiment la pratique seule qui détermine finalement les critères du vrai. Mais Comte, lui, conserve bien cette distinction entre la théorie et la pratique, et il continue à dire en fait que c'est la théorie qui doit prévaloir, et que même la pratique doit être finalement d'être reprise de manière, d'être rationalisée, d'être reprise de manière rationnelle par la philosophie. Alors, j'ai résumé ça ici, mais le positivisme qu'on tient n'est pas un mysticisme, pas un empirisme, pas un scientisme, pas un pragmatisme. Alors qu'est-ce qu'il est, finalement? Comment est-ce qu'on peut le qualifier? Alors j'ai deux petites propositions. Perspectivisme et le constructivisme, c'est peut-être un peu osé, mais je vais en expliquer. Alors Comte explique que nos connaissances dépendent de nos conditions propres, nos conditions sensorielles, et ils sont relatives. Par exemple, tout simplement, il dit qu'il ne saurait exister d'astronomie chez une espèce aveugle. Une espèce aveugle, ne pouvant jamais observer les astres, ne soupçonnerait même pas leur existence, il n'y aurait pas d'astronomie chez une espèce aveugle. Nous sommes donc nous-mêmes limités à ce que nous voyons. Et donc ce relativisme, qui est donc éventuellement même un perspectivisme, Pierre Macheret, de nouveau, n'hésite pas à le rapprocher du passage suivant de Nietzsche, qui est extrait du Gai Savoir, dans le paragraphe 374. Nietzsche écrit « Nous ne pouvons voir qu'avec nos yeux. C'est une curiosité sans espoir de succès que de chercher à savoir quelles autres sortes d'intellect et de perspectives peuvent exister. » J'espère cependant que nous sommes aujourd'hui loin de la ridicule prétention de décréter que notre petit coin est le seul d'où l'on ait le droit à avoir une perspective. Tout au contraire, le monde pour nous est redevenu infini, en ce sens que nous ne pouvons pas lui refuser la possibilité de prêter à une infinité d'interprétations. Alors on pourrait dire que Comte, finalement, en tout cas dans cette première partie de son œuvre, ça changera un petit peu par la suite, il pose la clôture d'un monde qui est humain, en tant qu'il n'est monde que pour l'homme. Donc il ne dit pas que le monde en lui-même est fini, il dit que le monde de l'homme est fini. Le monde de l'homme n'est pas infini, puisqu'il n'est pas l'ensemble du monde. Ce n'est qu'une perspective, une perspective sur le monde. Tandis que l'univers se déploie indéfiniment, mais à l'extérieur de cette clôture. Alors on voit déjà qu'ici, ça pourrait assez vite faire penser à Kant, cette idée que on ne peut pas saisir la réalité des choses, il y a une différence entre phénomène et nous-mêmes, pour reprendre les termes de Kant. Et effectivement, je serai amené à reparler de Kant très vite. Donc l'idée, c'est que l'expérience sensible, qui est la matière de la science, est relative à la structure de nos organes, et l'explication de l'expérience, c'est-à-dire la forme de la science, est relative à l'âge de l'esprit humain. Vous voyez, donc il dit la matière de la science, l'expérience, est relative à nos sens, à notre corps, et l'explication de l'expérience, donc la forme de la science, est relative à notre esprit. Donc il y a vraiment un relativisme assez complet de la science chez Comte, et qu'on pourrait effectivement ici qualifier de perspectivisme avec ce rapprochement. Alors pourquoi est-ce que je parle aussi de constructivisme ? Alors ça, c'est vraiment un anachronisme, évidemment, de parler de constructivisme pour un auteur du XIXe siècle. Mais c'est parce que Comte insiste sur l'idée que nos conceptions dépendent du côté social, que nos conceptions, nos théories scientifiques, nos opinions philosophiques, sont des phénomènes entièrement humains, même sociaux, déterminés par la société, plus que par l'individu, et ne peuvent donc, de ce fait, atteindre une fixité absolue. Il dit, nous n'avons pas les mêmes opinions aujourd'hui qu'il y a 200 ans, dans 200 ans, nous en aurons encore d'autres. C'est normal, c'est parce que finalement, il n'y a pas de, pour le dire un peu platement, il n'y a pas de vrai à atteindre. Il y a vraiment une forme d'adéquation de nos conceptions, de nos opinions, non pas au monde, mais plutôt à la société, voire à l'esprit humain. Mais je vais développer cela. Alors, il y a malgré tout, je dis, il n'y a pas de vrai à atteindre, bon, c'est un peu réducteur, il y a malgré tout chez Comte un progrès des sciences. Il dit bien que nos théories s'adaptent de mieux en mieux à la réalité, qu'elles représentent de manière de plus en plus exacte les objets extérieurs. Toutefois, elles n'atteindront jamais leur vraie constitution, la vraie constitution des objets extérieurs. C'est là une limite idéale que nous ne pouvons qu'approcher autant que l'exigent nos divers besoins réels, dit-il. Donc l'utilité sociale est vraiment le critère prédominant. Et de ce fait, le genre de science qui est bon pour aujourd'hui, donc même le genre de science qui est bon pour aujourd'hui, pourrait ne plus l'être demain. Il y a vraiment un relativisme comme ça, épistémologique, peut-être un peu étonnant chez Comte. Alors, puisque finalement toutes nos conceptions scientifiques dépendent avant tout de l'esprit humain, est-ce qu'on pourrait penser que, comme chez Descartes, il y aurait une science unique, celle de l'humanité? Alors, on pourrait comprendre ça évidemment en prenant le latin comme génitif objectif ou subjectif, donc la science de l'humanité, c'est-à-dire faite par l'homme ou qui porte sur l'homme, est-ce qu'il serait possible d'avoir une science unique, celle de l'humanité? Eh bien, pas vraiment. En fait, chez Comte, il y a une visée systématique, une visée synthétique. Il cherche vraiment l'unité, l'homogénéité des connaissances. Mais c'est le système des sciences, donc la philosophie des sciences, qui est indivisible, qui est un. Chaque science garde malgré tout sa particularité. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand on verra la classification des sciences que propose Comte. Alors, il explique donc que cette recherche d'unité dans la science, l'harmonie de nos conceptions que l'on recherche, se trouve malgré tout, c'est en ça que ça limite peut-être son constructivisme, qu'il y a quand même une forme de réalisme, cette harmonie, cette recherche d'unité se trouve nécessairement limitée à un certain degré par l'obligation fondamentale de sa réalité. C'est-à-dire que nous avons une sorte d'instinct de liaison, dit-il, qui nous pousse à vouloir lier tous les phénomènes ensemble. Mais malgré tout, l'étude du monde extérieur démontre, au contraire, que beaucoup de ces rapprochements seraient purement chimériques. Donc on ne peut pas inventer ce qu'on veut, il faut que ça corresponde au réel. Et en effet, il n'y a pas d'explication universelle de la nature, selon Comte. Le monde extérieur est, dit-il, beaucoup moins lié que ne le suppose ou ne le désire notre entendement. Les six catégories fondamentales, nous verrons plus tard, ne sont pas ramenables à une seule loi. C'est l'homme, l'esprit, qui les unit, qui est par la philosophie, mais pas, elles ne sont pas unies, finalement, par le monde, par la nature. Puisque, en fait, il y a vraiment, il pense à un décalage entre notre intelligence qui est faible, notre intelligence qui est limitée, et l'univers qui, au contraire, évidemment, infini et compliqué. Donc, notre unité ne saurait pas être la sienne, c'est-à-dire que l'unité subjective et l'unité objective ne correspondent pas. Alors, c'est là que Kant revient, et d'ailleurs, Comte, dans le discours sur l'esprit positif, donc le premier des deux discours, fait allusion à Kant et reprend cette distinction qu'il juge lumineuse entre le point de vue subjectif et le point de vue objectif. C'est-à-dire que c'est la méthode positive, la philosophie positive, c'est-à-dire humaine, qui est unie et pas le monde. Donc il y a homogénéité et convergence des différentes doctrines, mais pas de l'ensemble des phénomènes. Ou encore, je le cite, « c'est rapporté non à l'univers mais à l'homme, ou plutôt à l'humanité, que nos connaissances réelles tendent vers une entière systématisation. » Donc il conserve bien cette différence critique, entre guillemets, critique au sens de Kant, entre point de vue subjectif et point de vue objectif, ce qui veut dire qu'évidemment, il n'est finalement que partiellement réaliste. Donc il estime que les sciences peuvent être unifiées du point de vue subjectif, mais pas du point de vue objectif, par rapport à l'homme, mais pas par rapport au monde, et que, finalement, s'il y a une seule science, ce n'est pas parce que le monde est uni, c'est dans le sens où elle est faite par l'homme. Donc il n'y a qu'une science, la science de l'humanité, la science faite par l'homme. Et donc, j'en parlais déjà, ce n'est pas sans rappeler Descartes, qui écrivait dans Les règles pour la direction de l'esprit, « Comme les sciences tout ensemble sont rien d'autre que l'intelligence humaine, qui reste une et toujours la même, quelle que soit la variété des objets auxquels elle s'applique, sans que cette variété apporte à sa nature plus de changements que la diversité des objets n'en apporte à la nature du soleil qui les éclaire. » Vous voyez, l'idée de Descartes, c'est que l'esprit humain est comme un soleil qui, même s'il éclaire des choses très diverses, n'en reste pas moins le même. Donc il n'y a qu'un soleil, même si les choses éclairées sont diverses. C'est l'idée cartésienne donc d'une mathesis universalis, dans les règles pour la direction de l'esprit, c'est-à-dire une science unique relevant uniformément des mêmes principes. Mais le parallèle doit s'arrêter là, parce que c'est plus compliqué chez Comte. Chez Comte, il existe, malgré tout, je l'ai déjà dit, une relation hiérarchique entre les différents ordres des phénomènes. Il y a vraiment différentes sciences qui ne peuvent pas être ramenées à une seule. Simplement, il peut exister une unité philosophique, non pas naturelle, mais philosophique, entre les différentes sciences. Et donc, Georges Cantecor, qui est un autre commentateur d'Auguste Comte, dira que, contrairement aux cartésiens, pour qui le réel est intelligible, le monde est aussi uni que l'esprit humain, pour Comte, au contraire, l'intelligibilité et la réalité sont deux choses fort différentes. Si la science vise l'intelligibilité, c'est pour satisfaire un besoin tout subjectif, et non pas pour correspondre au monde. Alors, je vais passer assez vite sur ce point, mais malgré tout, il faut noter que Comte changera quand même un petit peu d'avis à ce sujet à la fin de sa vie, dans la deuxième phase de sa pensée. Quand il sera vraiment pris dans une pensée beaucoup plus religieuse, il en viendra à reconnaître au monde un ordre finalement presque transcendant, en tout cas un ordre naturel immuable, qui serait effectivement un peu l'équivalent de l'ordre de l'esprit humain. Et donc, au lieu de parler, comme il le fait dans la première partie de sa pensée, de loi naturelle au pluriel, il se mettra à parler d'un ordre naturel au singulier. Donc là, il y a quand même un glissement qui se fait. Alors, pour Auguste Comte, le but de la vraie science, je vous l'ai dit, n'est pas simplement d'accumuler des faits. Le but de la vraie science, c'est la prévision rationnelle qui doit servir à diriger notre activité. Il y a une véritable visée pratique chez Auguste Comte. Il s'agit de voir pour prévoir, d'étudier ce qui est afin d'en conclure ce qui sera, grâce à l'invariabilité donc des lois naturelles, des lois naturelles au pluriel. Donc savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir. Et vraiment cette idée de trouver les lois, afin de prévoir le futur, et prévoir le futur, pourquoi ? Pour pouvoir agir. Donc il ne s'agit guère, il ne s'agit jamais de développer la science pour la science, de faire de la théorie pure. La science n'est nécessaire que pour faire une politique, pour savoir dans quelle mesure, dans quelles limites, on peut agir sur le monde et sur la société. Donc en quelque sorte, il faut connaître le monde pour pouvoir le changer. Alors, il y a deux dimensions, deux exigences fondamentales. Chez Kant, je vous parlais de l'ordre et du progrès, c'est une devise de Kant, l'ordre et le progrès. Ce n'est pas qu'une formule en l'air, c'est réellement une exigence en réalité épistémologique. Il y a deux dimensions que l'on peut distinguer, de manière didactique en tout cas. Il y a d'un côté donc l'ordre, qui est l'appréciation statique, qui s'attache à la similitude, qui recherche la coexistence, qui s'attache à l'organisation et qui vise à expliquer. Et puis il y a donc le progrès, l'appréciation dynamique, qui s'intéresse à la succession au mouvement, qui étudie l'évolution et qui cherche à prévoir. Et ces deux exigences, ou de liaison et d'extension, dira-t-il encore, ces deux exigences pourraient sembler antinomiques, mais en réalité, elles ne le sont pas, elles ne sont pas contradictoires. Elles sont toutes les deux nécessaires. Elles sont une double condition fondamentale à laquelle les conceptions scientifiques précédentes n'ont qu'imparfaitement satisfait et qu'il s'agit de développer. Mais cette séparation, en fait, est tout à fait didactique, dit-il lui-même. Non seulement ces deux dimensions, ces deux exigences ne sont pas contradictoires, mais en fait, il dit que c'est une seule et même chose. Prévoir ou expliquer, ça revient toujours à lier. Ça revient toujours à lier des phénomènes, à découvrir des liaisons entre les phénomènes, et de retrouver finalement la constance au milieu de la variété. Alors, le point suivant que je vais aborder est un point assez important chez Kant, il y revient souvent, c'est sa critique, voire sa condamnation de la spécialisation. Vous savez peut-être Auguste Comte, puisqu'il recherche l'unité de la science, il recherche vraiment la systématisation de la science, la vue d'ensemble finalement, il aborde vraiment la spécialisation qu'il appelle aveugle et dispersive, qui est selon lui une vaine déperdition de nos faibles forces mentales, et à laquelle il s'agit évidemment de remédier. Alors le remède à cette spécialisation excessive, n'est nullement de revenir en arrière, dit-il, vers une confusion des domaines, mais au contraire de faire de l'étude des généralités scientifiques, une spécialité de plus, mais placée au-dessus des autres. Alors cela demande, selon lui, une classe de savants formée par une éducation proprement positive, qui ne s'occupe d'aucune branche particulière, mais détermine les principes communs dans une vision unifiée. Alors il dit dans le cours de philosophie positive, je le cite, une classe distincte ayant pour fonction propre et permanente de lier chaque nouvelle découverte particulière au système général. Donc avec cette classe distincte, on n'aura plus à craindre qu'une trop grande attention aux détails empêche jamais d'apercevoir l'ensemble. Et pour Comte, les philosophes au sens de Comte, sont ces spécialistes en généralité. Alors de nouveau, là, on peut retrouver finalement cette intuition, cette idée déjà chez Descartes, toujours dans les règles pour la direction de l'esprit. Je le cite, il dit « Certes, il me semble étonnant que la plupart des hommes étudient avec soin les plantes et leurs vertus, le cours des astres, les transformations des métaux et mille objets semblables, et qu'à peine un petit nombre s'occupe de l'intelligence ou de cette science universelle dont nous parlons. » C'est évidemment la même idée d'une vision d'ensemble qui devrait prévaloir, qui devrait précéder, peut-être un peu paradoxalement, qui devrait précéder les différentes disciplines. Donc il est contre la spécialisation, il dit qu'il faut une vue d'ensemble, et il est même en fait pour, je le disais tout à l'heure, pour la popularisation, entre guillemets, de la science, c'est-à-dire, il veut que ce soit les prolétaires, doués de leur bon sens, mais quand même une fois éduqués à l'esprit positif, ce soit les prolétaires qui contrôlent la science, qui lui disent où aller et qui la protègent en fait en quelque sorte des scientifiques eux-mêmes, ces scientifiques qui risquent d'aller perdre la science dans des détails inutiles. Donc il y aura un contrôle de l'orientation générale de la science par les prolétaires, c'est en tout cas ce que souhaite Comte, mais pas, malgré tout, pas du contenu des théories scientifiques, il garde évidemment cette distinction-là. Alors, juste une petite parenthèse historique, il faut savoir que Comte, à cet égard, fait vraiment figure d'exception. C'est vrai que les révolutionnaires avaient cet idéal populaire que la science soit soumise au contrôle du peuple, comme d'ailleurs absolument tout le reste. Mais au XIXe siècle, vraiment, l'idée qui va prévaloir, c'est l'idée inverse, c'est l'idée que les savants, les scientifiques savent très bien ce qu'ils font, qu'ils ne doivent pas être finalement ennuyés par le peuple, qu'ils doivent pouvoir travailler de leur côté, développer, parce qu'ils savent mieux évidemment ce qu'ils font que les prolétaires, donc pouvoir développer leur discipline, leur science, et Condorcet, déjà, défendait cette idée. Il estimait que les savants devaient échapper au contrôle de l'opinion publique, échapper au tribunal de l'opinion, parce que la science est son propre tribunal, évidemment, son propre tribunal qui est critique en interne, ce qui lui permet d'être dogmatique en externe. Alors, j'en viens maintenant à un point évidemment très très central, c'est la fameuse loi des trois États. Vous avez probablement tous un peu entendu parler de cette loi des trois États chez Auguste Comte, même si vous ne savez pas forcément exactement ce que c'est. Alors, cette loi est une loi évidemment que Comte dit constater, qu'il dit découvrir, qu'il n'invente pas. C'est une loi qui est une loi de l'évolution intellectuelle de l'humanité. Donc cette loi présente la progression de l'intelligence humaine, de l'esprit humain, son développement, qui passerait nécessairement par trois états théoriques successifs, par trois étapes, mais qui sont aussi en fait trois méthodes, trois manières de philosopher, trois types de philosophie. Alors, ces trois états, ce sont le suivant. D'abord, l'état qu'il appelle théologique ou fictif. Dans ce premier état, l'homme se concentre sur des questions insolubles, des questions inaccessibles à l'investigation, comme par exemple la question des origines, donc d'où vient tel phénomène, d'où vient telle chose, donc vraiment la question des origines. Il recherche les causes premières et finales, ça c'est le vocabulaire d'Aristote en particulier, les causes premières et finales. C'est-à-dire qu'il recherche à avoir des connaissances absolues. Et il en appelle à des forces surnaturelles, pour expliquer les phénomènes, on appelle des forces surnaturelles, sans reconnaître de régularité à la nature. Alors ce premier état, l'état théologique, comporte lui-même trois phases, selon Auguste Comte. Il y a tout d'abord le fétichisme, c'est une notion qu'il emprunte à l'ethnologue Charles de Brosse, qui est un ethnologue du XVIIIe siècle français. Le fétichisme qui consiste à attribuer au corps extérieur une vie analogue à la nôtre. Peut-être qu'aujourd'hui on parlerait plutôt d'animisme, ou on parlera aussi d'animisme en tout cas, mais à l'époque il utilise le terme fétichisme. Il y a ensuite, deuxième phase, le polythéisme. Alors avec le polythéisme, l'imagination vraiment domine, il y a invention d'êtres fictifs en faveur desquels la vie est retirée aux objets matériels. Ce n'est plus du fétichisme, la vie est retirée aux objets matériels, on invente maintenant des êtres fictifs. Donc évidemment les dieux au pluriel, et ces êtres invisibles sont considérés intervenir dans le monde et être la source des phénomènes naturels. Enfin, troisième phase de ce premier état de l'état théologique, c'est le monothéisme. Le monothéisme qui, en fait, marque déjà le déclin de ce premier état parce que, selon Comte, la raison il limite l'imagination. Dans le monothéisme, il y a vraiment déjà un effort de rationalisation qui montre qu'il y a un progrès, un avancement. Alors, il faut comprendre cette première étape, qui est évidemment assez dépassée pour Comte, on n'y est plus, était malgré tout une étape tout à fait nécessaire à l'époque, pour, en tout cas pour la formation d'un lien social. Il dit que l'esprit positif ne pouvait pas directement émerger. Il fallait cette première étape pour finalement pour faire émerger petit à petit l'esprit positif. Alors le deuxième état, le deuxième des trois états par lesquels passe l'intelligence humaine, alors précision très importante, c'est que quand il parle de cette évolution de l'intelligence humaine, de l'esprit humain, c'est à la fois l'esprit de toute l'espèce humaine, l'esprit de l'humanité, et de chaque individu. Donc il y a vraiment les deux dimensions chez Kant, c'est à la fois chaque individu qui passe par ces trois étapes lorsqu'il grandit, et l'humanité tout entière qui a progressé de cette manière. Donc le deuxième état est l'état métaphysique, disais-je, état métaphysique ou abstrait. Alors dans cet état, ce ne sont plus des agents surnaturels qui sont convoqués pour expliquer la nature, mais des entités, des forces cachées, donc inobservables, on n'est pas dans le positivisme à ce moment-là, ce sont des forces cachées, mais qui sont immanentes, qui sont bien immanentes, plutôt que transcendantes comme elles l'étaient dans le premier état. Ce ne sont plus des dieux transcendants, ce sont des forces immanentes qui seraient cachées dans les choses mêmes. Et l'homme, finalement, répond à la question « pourquoi ?» en utilisant les abstractions. Alors Kant utilise lui-même, c'est dans le discours sur l'esprit positif, le premier discours de 1144, il utilise le célèbre exemple de la vertu dormitive de l'opium. Et cet exemple qu'il emprunte à Molière, donc dans le malade imaginaire, tout à la fin du malade imaginaire, c'est le troisième intermède. Et c'est un passage qui est en latin. Et dans ce passage, le docteur discute avec le docteur en médecine discute avec le bachelier, avec l'élève. Et le docteur, pour tester l'élève, lui demande « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'opium fait dormir ?» Et le bachelier répond « Si l'opium fait dormir, c'est parce qu'il possède une vertu dormitive. » Donc évidemment, c'est ne rien dire, évidemment. C'est l'attribution d'un pouvoir qualifié uniquement par son résultat. Ça n'explique absolument rien. Mais malgré tout, dit Comte, ça a été longtemps efficace, c'est équivoque mais efficace, parce qu'on ne dit rien, mais en même temps on fait croire qu'on explique. Alors, ce deuxième état, cet état métaphysique, n'est selon Comte en fait qu'une espèce de transition, qui va permettre de passer du premier état au troisième, qui est du point de départ, pardon, au point d'arrivée, au point de fixe et définitif, mais une transition qui était tout à fait nécessaire justement pour arriver à l'esprit positif, parce que le changement ne pouvait pas être brusque. L'esprit positif n'était pas encore capable de formuler ses propres tendances philosophiques. Il devait donc en passer par cette dissolution graduelle, dit-il, de l'état théologique. Et donc cette étape nécessaire, en fait, permet le développement de l'esprit humain jusqu'à ce qu'il le freine. Il dit, il devient oppressif pour l'essor scientifique qu'il avait jusque-là secondé. Et en particulier, concrètement, selon Comte, la crise qui, dans notre histoire particulière, a fait succomber l'esprit métaphysique au profit de l'esprit positif est double. Elle provient de Kepler et Galilée en science et de Bacon et Descartes en philosophie. Donc on peut évidemment noter qu'ici, je reviendrai sur cette question, mais Auguste Comte fait bien la distinction entre science et philosophie, puisqu'il dit que c'est une double crise, d'un côté scientifique, de l'autre philosophique, et fait la différence entre Galilée, le scientifique, et Descartes, le philosophe. Alors, le troisième état, enfin, l'état positif, évidemment, ou scientifique, il dit que c'est l'état normal, dans cet état, l'homme ne recherche plus les causes des phénomènes qu'il reconnaît comme étant tout à fait inaccessibles, mais il se met à rechercher les lois invariables, c'est-à-dire les relations constantes entre des phénomènes observés. Et ces lois, il faut chercher à les réduire autant que possible, explique Auguste Comte. Et ne pas aller au-delà de l'observation, c'est évidemment le positivisme, ne pas aller au-delà de l'observation, c'est aussi pour Comte remplacer la question « pourquoi ?», la question « pourquoi ?» qui est insoluble, par la question « comment ?». Donc ça déjà, ça pourrait aussi paraître un petit peu étonnant, quoique c'est quelque chose qu'on sait assez bien à propos de Comte, c'est qu'il renonce complètement à la question « pourquoi ?» et à la recherche des causes. Il estime que les causes, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question métaphysique, et qu'elle n'a pas de réponse possible pour l'esprit humain. Donc, il faut uniquement se contenter de reconnaître, grâce à l'observation, mais malgré tout par le raisonnement, de reconnaître les lois qui sont à l'œuvre dans la nature pour pouvoir s'en servir. Alors, par exemple, il prend l'exemple de la gravitation avec Newton et il dit « Pour citer l'exemple le plus admirable, nous disons que les phénomènes généraux de l'univers sont expliqués, autant qu'ils puissent l'être, par la loi de la gravitation newtonienne. » Il développe ça, c'est dans la première leçon du cours de philosophie positive. Donc il y a bien un mystère de la production des faits qui, selon lui, ne peut être pénétré. On ne peut pas comprendre la production des faits. On ne peut pas savoir d'où viennent les faits, quelle est leur cause, quelle est leur origine. Et dès lors, il faut restreindre toutes nos spéculations aux recherches vraiment accessibles. Alors malgré tout, évidemment, il ne pense pas ça comme une capitulation. Il dit « La saine philosophie écarte radicalement toutes les questions insolubles, mais en motivant leur rejet, elle évite de rien nier à leur égard. » Donc il n'estime pas que c'est un défaut de la pensée. Il estime que réellement, on reconnaît au contraire positivement, on reconnaît que ces questions sont insolubles et qu'elles doivent être écartées. Et en effet, chercher les causes génératrices des phénomènes est une voie sans issue, selon lui, puisqu'on ne fait que reculer la difficulté, puisqu'il faudrait chercher indéfiniment les causes des causes. C'est déjà le problème posé par Aristote, avec il recherche les causes du mouvement. Il dit, le mouvement d'un corps est toujours causé par un autre corps, mais il dit, mais si on remonte comme ça, c'est une régression à l'infini, et c'est pour ça qu'Aristote, lui, postule qu'il y a un premier moteur immobile de l'univers, qui lui-même est immobile et qui a mis en mouvement le reste. Donc ici, évidemment, Comte ne va pas jusqu'à inventer ce qu'il appellerait ici une fiction. Il dit juste qu'il faut renoncer à la question et analyser simplement avec exactitude les circonstances plutôt de la production des phénomènes. Et il explique que dans ce troisième état, l'humanité, non pas l'homme au singulier, mais l'humanité, j'y reviendrai, devient la notion prépondérante. Et elle remplace la notion prépondérante du premier état qui était celle de Dieu, et celle du deuxième état qui était la nature, en tant que notion qui permet une pleine systématisation mentale. Alors, je vous ai fait un petit résumé. Voilà ce que je vais un peu d'expliquer, en gros, les trois états. Alors, comme je le disais, l'évolution de l'individu corrobore celle de l'espèce. Bon, en termes techniques, l'ontogénèse reproduit la phylogénèse. C'est-à-dire que tout homme est théologien dans son enfance, métaphysicien dans sa jeunesse et physicien dans sa virilité. Alors je le disais, c'est le vocabulaire du 19e siècle. L'âge adulte, Comte, il appelle ça la virilité. Et dès lors, les premières démarches de l'esprit humain, dit-il, ne pouvaient être que générales. Parce que l'observation, comme je le disais, nécessite des lois préalables. Et donc la philosophie théologique était la seule possible à l'origine. Il dit c'est normal qu'on ait commencé par inventer des grandes fictions unificatrices tant qu'on n'avait pas encore, tant qu'on n'avait pas mieux. Quoi. Et à la loi des trois états, bon, ça c'est un détail, mais il explique que correspond par ailleurs sur le plan de l'action une phase conquérante, puis défensive, puis industrielle. Et que dans l'état positif et industriel, donc le dernier, le pouvoir doit appartenir aux philosophes, c'est-à-dire aux savants, mais pas en tant que spécialistes, puisqu'il estime que ceux qui manient les signes plutôt que les choses ont, selon lui, une capacité politique supérieure. Donc vous voyez, il y a un intérêt social poussé chez Comte. Il dit qu'il faut l'instruction populaire, il faut instruire les prolétaires. Et malgré tout, il dit qu'il y a quand même une forme d'élitisme qui se maintient. C'est-à-dire qu'on se rend compte que Comte veut plutôt se servir des prolétaires qu'il ne veut réellement les servir. Il a besoin des prolétaires pour asseoir sa doctrine, pour la faire rencontrer un grand succès et avoir de l'importance. Mais il y a quand même une petite tension ici. Je redirai un mot là-dessus. Alors, Comte, on le voit ici, a une vision assez nécessariste ou déterministe de l'histoire des sciences. Cette évolution qu'il nous a présentée est une évolution nécessaire, selon lui. Elle n'est pas du tout une évolution contingente. L'esprit n'aurait pas pu passer par d'autres phases. Selon lui, cette marche déterminée de l'esprit humain est supérieure aux plus grandes forces intellectuelles, aux plus grandes intelligences individuelles, qui n'apparaissent que comme des instruments destiné à produire, à tant nommer, les découvertes. en quelque sorte, l'histoire où la science produit les hommes dont elle a besoin. Là, on n'est pas loin de la ruse de la raison chez Hegel. Cette idée, pour l'illustrer un petit peu, que finalement, si les parents d'Einstein ne s'étaient jamais rencontrés, ou si Einstein avait fait une toute autre carrière, la relativité aurait quand même existé. Parce que voilà, la science était dans cet état-là, à ce moment-là. Et donc, il y aurait forcément eu quelqu'un qui aurait développé la relativité à ce moment-là. Évidemment, ça ne va pas de soi. On pourrait très bien prendre le contre-pied et dire que l'histoire des sciences est très contingente. La sociologie des sciences dit beaucoup ça. Évidemment, il y a les accidents qui arrivent, il y a l'influence de la société, de l'histoire. Ici, non. C'est vraiment une vision très nécessariste, très déterministe de l'histoire des sciences. Et donc, l'avènement de l'esprit positif, finalement, n'est absolument pas un miracle, n'est même pas un événement, ce n'est que le développement nécessaire du bon sens naturel, dit-il. C'est une évolution qui est spontanée, qui n'est pas provoquée. Mais malgré tout, il dit que maintenant que l'on peut en obtenir une exacte appréciation, eh bien, on peut s'appuyer sur cette appréciation de l'évolution de l'esprit humain pour intervenir, pour finalement, en quelque sorte, aider la nature. Et lui faire éviter les possibles déviations et retards. Alors, on pourrait se demander pourquoi y aurait-il des retards, pourquoi y aurait-il des déviations si cette marche est absolument nécessaire. Donc ça peut, voilà, une question qu'on peut soulever. Mais l'idée, selon Comte, c'est que voilà, c'est cette marche de la nature, de cette marche naturelle de l'esprit humain plutôt. Elle doit malgré tout être continuée directement par les efforts humains. Alors, il est peut-être pressé, je ne sais pas, mais il veut pas seulement laisser faire la nature, il veut aussi la pousser dans le bon sens, finalement, et grâce au bon sens, après l'avoir reconnu. Et donc c'est bien toujours l'idée de la philosophie pour éclairer la politique, puisqu'il va s'agir d'agir, y compris au niveau social, pour passer de la spontanéité constatée à la systématisation et ne plus, dit-il, abandonner les sciences à elles-mêmes. Donc, son idée, c'est vraiment que la philosophie des sciences, doit servir à systématiser l'existence humaine, à l'unifier, à coordonner toutes ses parties. Alors, par ailleurs, pourquoi dit-il ça concrètement? Que croit-il qu'il reste à faire? Puisqu'il dit, nous sommes dans l'état positif, l'esprit positif domine. Donc pourquoi dit-il qu'il faut encore agir? En particulier, il estime que la physique sociale, ce qu'il appellera plus tard la sociologie, mais il appelle ça encore la physique sociale, à ce moment-là, n'a pas encore, en ce qui la concerne, atteint l'état positif. C'est une lacune, cela reste à réaliser. D'ailleurs, il estime que le cours de philosophie positive doit servir à cela. Et que lorsque cette lacune sera comblée, qu'on aura vraiment fait de la sociologie scientifique, eh bien là, vraiment, l'esprit positif sera universel, sera enfin universel. On pourra enfin rendre toutes les sciences homogènes et donc arriver à une pleine systématisation. Alors, toujours dans le discours sur l'esprit positif, Auguste Comte prend la peine, c'est intéressant pour nous aussi, de préciser la sémantique du terme positif. Positif, quel est le sens de positif tel que je l'utilise? Alors je l'ai repris ici sur la dia. Il nous explique que positif, l'adjectif positif, qualifie selon lui le réel par opposition au chimérique. Évidemment, chimérique, ce sont toutes les fictions des deux premiers états, c'est-à-dire les recherches vraiment accessibles à notre intelligence et non pas les impénétrables mystères. Alors l'utile par rapport à l'oiseux, c'est-à-dire ce qui permet l'amélioration de la condition humaine, l'amélioration de notre condition, donc c'est toujours cette visée pratique que j'avais déjà évoquée, plutôt que la vaine satisfaction d'une stérile curiosité. Alors, un mot tout de même, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas ici d'une notion d'utilité dans le sens d'utilité matérielle immédiate. Ce n'est pas l'utilitaire, ce n'est pas le profit, ce n'est pas l'utilité matérielle immédiate. C'est une utilité en quelque sorte médiée qui passe par l'ensemble de l'humanité. C'est évidemment pas le profit et le gain individuel, mais vraiment l'amélioration de la condition humaine. Alors par ailleurs, donc, positif des noms, désigne pardon, la certitude par opposition à l'indécision, le précis par opposition vague, l'aptitude à organiser par opposition à l'aptitude à détruire, et le relatif par opposition à l'absolu. Ça, c'est peut-être un peu plus surprenant, quoique nous l'ayons déjà vu ensemble. L'absolu est vraiment le terme négatif, ici, pour Auguste Comte, et relatif, le terme positif. Effectivement, nous avons vu que toutes nos connaissances sont, selon lui, relatives. Et il a écrit, d'ailleurs, dès sa jeunesse, dans une de ses premières œuvres, il a écrit « Tout est relatif, voilà la seule chose absolue ». Donc la science est relative, mais aussi, d'ailleurs, la politique, puisqu'il précise que le régime politique doit être en rapport avec l'état de civilisation. C'est-à-dire que le meilleur régime politique pour chaque époque est celui qui s'y conforme le mieux, qui se conforme le mieux à l'état de la civilisation à ce moment-là. Il n'y a donc pas, il ne saurait y avoir, de régime absolument préférable à tous les autres, selon Auguste Comte. Puisque rien n'est absolu, il n'y a pas non plus de régime politique absolument préférable aux autres. Donc évidemment, ce n'est pas un très grand démocrate. Alors, tant qu'on est un peu dans les précisions sémantiques, mais qui ont évidemment leur intérêt épistémologique et philosophique, qu'en est-il finalement de la philosophie? Quel est le statut exact ici? J'ai beaucoup parlé de philosophie depuis tout à l'heure. Quel est le statut exact de la philosophie chez Comte? J'ai bien dit qu'il était finalement anti-métaphysique. Il dénonce la métaphysique comme le relevant du deuxième état, d'un état tout à fait dépassé des connaissances humaines et tout à fait insatisfaisant. Donc s'il est anti-métaphysique, est-ce qu'il est anti-philosophie? Alors, non, évidemment, puisqu'il qualifie lui-même sa doctrine, sa pensée, son système de philosophie positive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme est souvent ambigu et qu'il avait en tout cas, à l'époque, encore un sens beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Il n'était pas comme aujourd'hui, philosophie, ça évoque une spécialité académique donnée. À l'époque, ça avait un sens beaucoup plus large. D'ailleurs, comme chez Galilée ou Newton, Comte lui-même parle de philosophie naturelle pour désigner l'ensemble de ce qu'on appelle les sciences dures, les sciences naturelles. Et finalement, la philosophie, selon lui, n'est pas exclue par le positivisme, parce que ce qu'il entend par philosophie, c'est une vue d'ensemble de la nature et de l'homme. Il précise d'ailleurs dans l'avertissement du cours de philosophie positive, que lui emploie le terme de philosophie, à défaut d'en posséder un meilleur, dans le sens d'Aristote, c'est-à-dire comme signifiant le système général des conceptions humaines, le système général des conceptions humaines, sur l'ensemble des phénomènes, c'est-à-dire que c'est à la fois leur inventaire et leur synthèse. Donc c'est l'ensemble des conceptions humaines intégrées dans un système unique. Alors, et puis bon, il y a évidemment la philosophie qui reste finalement en tant que philosophie des sciences, que système général des sciences, prise de distance, recul nécessaire envers les différentes sciences, pour pouvoir les comprendre, donc les guider, etc. Alors on peut se poser la même question en ce qui concerne la religion. Évidemment, je vous ai dit que Auguste Comte avait fondé une religion, avait eu un tournant religieux dans sa pensée. Et donc on peut également se demander, est-ce que le positivisme, est-ce que la pensée de Comte est anti-religieuse ou non? Eh bien, il y a la même distinction à faire. C'est-à-dire qu'il y a bien opposition entre la science et la théologie. Ça, évidemment, l'opposition est nette. Pendant tout un temps, dit-il, elle ne s'occupait pas de la même chose, la science et la théologie avaient chacun leur domaine, parce que la science était au Moyen-Âge avant tout de la mathématique, de la logique, donc elle ne s'opposait pas à la théologie. Mais avec l'avènement de l'astronomie, dit-il, la collision fut inévitable. Alors évidemment, on peut penser au procès de Galilée. Il y a une collision entre la science et la théologie, et la théologie, en ce qu'elle a entravé l'astronomie, fut bien un obstacle à la philosophie positive. Et il précise que cette opposition radicale entre théologie et science est largement admise en ce qui concerne le fétichisme et le polythéisme, ce n'est les deux premières phases du premier état, parce que ce sont des doctrines, finalement, des ensembles qui sont aujourd'hui dédaignés. Mais cette opposition est moins reconnue, dit-il, en ce qui concerne le monothéisme, en raison évidemment d'une forte tradition chrétienne, toujours à l'œuvre. Donc il estime que la phase du monothéisme n'est pas encore tout à fait franchie. Alors, voilà, pour résumer, je dirais qu'il y a opposition entre la science et la métaphysique, mais non entre la science et la philosophie, au sens où il l'entend. De même, il y a opposition entre la science et la théologie, mais non entre la science et la religion, au sens où il l'entendra, puisqu'évidemment, le côté religieux de Comte vient plutôt dans un deuxième temps. Mais quand il parlera il y a quand même une grande cohérence, quand il parlera de religion dans la deuxième partie de sa vie, il n'en reviendra pas pour autant à de la théologie. Il gardera bien la distinction. De plus, il y a ici vraiment une distinction à faire entre la philosophie et les philosophies, qui est la même qu'entre la religion et les religions. En effet, divers systèmes généraux ont été élaborés dans le passé pour assurer une fonction coordinatrice à l'égard des conceptions humaines. Donc, divers systèmes philosophiques, au sens où il l'entend, des philosophies particulières et historiques, ont existé. Et la philosophie, au sens de Comte, elle englobe ces systèmes et elle les dépasse. C'est en quelque sorte, si vous voulez, une philosophie des philosophies, c'est-à-dire le système le plus général possible, par rapport auquel les autres ne sont que des approches provisoires. De même, quand il se mettra à parler de religion au singulier, il entendra par là la véritable unité humaine, qu'il faut viser, même si on n'atteindra peut-être jamais tout à fait. Donc cette véritable unité humaine, elle se distingue des religions au pluriel, qui sont des systèmes d'opinion temporaires, partiaux et locaux, qui ne sont finalement que des moyens, des préparations provisoires pour parvenir au but qu'est la religion universelle et définitive. Donc il y a vraiment cette même distinction. Quand il parle de philosophie, il la distingue bien des philosophies ayant existé, finalement, et la religion, de nouveau, la religion dont il parle, ce ne sont pas les religions, que ce soit monothéistes ou polythéistes, qui ont existé. Alors, j'en viens à présent, je l'ai annoncé plusieurs fois, à la fameuse classification des sciences que nous présente Comte. Comte nous dit que les phénomènes naturels, tous les faits observables, évidemment, on en reste toujours à l'observable, peuvent être divisés en différentes catégories qui sont différentes disciplines scientifiques. Alors, vous avez fait une dia ici assez chargée qui reprend tout ça, mais je vais développer. Donc, il y en a six, selon lui, il y a six catégories fondamentales, donc six sciences fondamentales, en fait plutôt cinq, parce que la mathématique est un peu à part, mais je vais y venir, qui sont dans l'ordre la mathématique, ou les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie et la sociologie. Alors, cet ordre n'est pas du tout aléatoire, c'est un ordre qui, selon lui, va du plus simple, du plus abstrait, du plus général et du plus éloigné de l'homme, évidemment, a priori, les mathématiques, ça ne parle pas de l'homme, jusqu'au plus complexe, au plus concret et concernant directement l'homme. Évidemment, la sociologie, c'est la science de l'homme, par excellence, selon Comte. Donc, vous voyez, il y a un mouvement de complexité croissante et de généralité décroissante. Et le principe, c'est que chaque catégorie suppose la précédente, sans s'y réduire, et elle amène à chaque fois quelque chose de plus. Alors dans le cours, dans la deuxième leçon du cours, il dit « Tous les phénomènes observables peuvent être disposés de telle manière que l'étude de chaque catégorie soit fondée sur la connaissance des lois principales de la catégorie précédente et devienne le fondement de l'étude de la suivante. » Et alors pour expliquer donc cet ordre qui va du plus simple au plus compliqué, il dit, toujours dans la deuxième leçon du cours, « Il est clair en effet que les phénomènes les plus simples ceux qui se compliquent le moins des autres, sont nécessairement aussi les plus généraux, car ce qui s'observe dans le plus grand nombre de cas est, par cela même, dégagé le plus possible des circonstances propres à chaque cas séparé. » Et donc, comme je l'ai indiqué ici, cette classification des sciences fondamentales, il la nomme aussi l'échelle encyclopédique. Alors, l'échelle encyclopédique, c'est vraiment une formule qui traduit à la fois l'idée de hiérarchie, l'échelle, évidemment, d'ascension, et l'idée d'exhaustivité, c'est l'échelle encyclopédique, elle reprend absolument l'ensemble des sciences. Alors, je vous ai mentionné ici en dessous, c'est plus un détail, mais pour reprendre un peu son vocabulaire aussi, il divise, il fait des sous-classes, avec finalement l'appellation, où il appelle chaque science, il désigne chaque science comme étant une physique. C'est qu'à son époque, il n'y avait pas encore la distinction entre les sciences dures et les sciences humaines, les sciences naturelles et les sciences humaines. Et donc, la physique est un modèle, donc pour donner un peu un un côté finalement sérieux, il qualifie absolument toutes les sciences de physique. Et l'astronomie, c'est la physique céleste. La physique, c'est la physique terrestre mécanique. Et puis, il y a physique terrestre chimique. Il y a la biologie et la physique organique, végétale, animale. Et même la sociologie et la physique sociale. Donc, la distinction entre, vous voyez, entre corps brut et corps organique. Donc, je disais, les mathématiques, en fait, est à part. Il parle souvent de cinq sciences fondamentales. Parce que, évidemment, la mathématique ne parle pas du monde, comme on dit, ne parle pas de phénomènes naturels. Il dit qu'elle est la base, donc la mathématique singulière, est la base plutôt qu'une partie de la philosophie naturelle. Donc, il parle bien de philosophie naturelle pour l'ensemble des sciences. Il dit de la mathématique, elle est un berceau et non un trône. Alors, comme je disais, l'ordre n'est absolument pas aléatoire, il y a une véritable progression. Et Comte estime qu'avec chacune des sciences, avec chacune de ces nouvelles sciences, arrive à chaque fois une innovation méthodique, un progrès logique. Donc, je les ai repris ici. Voilà. Qu'on nous explique qu'au niveau des mathématiques, les mathématiques se servent du simple raisonnement. Le raisonnement est leur procédé unique, mais poussé jusqu'au bout. Évidemment, il n'y a pas d'observation en mathématiques, il n'y a que du raisonnement. L'astronomie, justement, amène l'observation, amène la méthode qui est l'observation, et directement la systématise, puisqu'en astronomie, évidemment, tout est basé sur l'observation. Ensuite, la physique amène l'expérimentation. La chimie introduit quant à elle la nomenclature artificielle. Et dit la nomenclature artificielle, elle permet, donc évidemment, de disjoner la table des éléments, les noms des différents éléments. Et dit cette nomenclature artificielle, elle permet de mettre en relief la composition des substances les unes par les autres. Évidemment, on va retrouver, si on met H pour hydrogène, on va tout de suite, quand on aura la formule d'une, la composition d'une substance chimique, on saura tout de suite de quoi elle est composée. Ensuite, la biologie apporte la méthode comparative, selon lui. En particulier, il parle de comparer des organismes complexes avec des organismes plus simples, pour voir un petit peu, finalement, la progression possible. Et enfin, donc, la sociologie apporte ce qu'il appelle la méthode historique. Une méthode historique qui consiste à partir de certains bouts, finalement, de l'histoire, de parvenir à mettre au jour l'entière courbe du développement des phénomènes. Donc essayer de, c'est vraiment l'idée de loi, trouver toute la courbe du développement des phénomènes, finalement, à partir de seulement de la recomposer à partir de certains bouts. Et donc il y a accumulation, addition de ces méthodes, car une science ne renonce pas aux ressources pardon, de celles qui la précèdent. Ce qui veut dire évidemment que la sociologie est la reine des sciences, est la science type pour Auguste Comte, puisqu'elle utilise toutes les méthodes. Il y a vraiment une addition. Elle intègre les acquis des autres sciences, elle s'appuie sur d'autres sciences, puisqu'il s'agit pour Auguste Comte, pour la sociologie, d'affronter l'objet le plus complexe qui soit, c'est-à-dire la société humaine. Et d'ailleurs, Comte est souvent crédité de l'invention de la sociologie. Le terme avait déjà été utilisé avant lui, mais c'est vrai qu'il a donné une grande importance à la sociologie. Alors, vous voyez, en dessous, j'ai mis la psychologie avec l'introspection. En fait, ça devait être barré. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Puisque, pour Auguste Comte, il n'y a absolument pas de place pour la psychologie. Elle ne fait pas partie des sciences fondamentales. Pourquoi ? Parce que, selon lui, la conjonction de la biologie et de la sociologie la rend tout à fait caduque. Le milieu social, donc la sociologie, est en effet la condition nécessaire pour le développement de la pensée et des sentiments vraiment humains, selon lui. Donc il n'y a de pensée et de sentiments vraiment humains qu'en société. Donc c'est la sociologie. Et la physiologie animale, donc l'homme en tant qu'animal, vraiment, rend déjà suffisamment compte, selon lui, des émotions ou des sensations basiques. Et pour lui, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Hein, j'aurai notamment l'occasion de le redire assez vite. Il n'y a pas vraiment d'individu. Il va dire, Auguste Comte, c'est la notion d'individu qui est abstraite par la notion de société. Et en outre, il rejette en particulier donc, la psychologie en raison de sa méthode, l'introspection. Alors, à l'époque de Comte, ce qu'on appelle la psychologie expérimentale n'existe pas encore. Elle sera développée à la fin du siècle par Wundt, ou ensuite avec Skinner et le behaviorisme, etc., donc où il y a vraiment des expériences de psychologie. À l'époque, ce qu'on appelle la psychologie, ça consiste dans l'introspection. Et dès la première leçon du cours, il reproche donc à la psychologie cette prétention illusoire à contempler l'esprit humain en lui-même, sans prendre en compte les causes et les effets. L'introspection est donc cette prétendue mais impossible contemplation de l'esprit par lui-même. Et au contraire, dit-il, l'esprit humain peut certes observer directement tous les phénomènes, mais pas les siens propres, puisque l'observateur et l'observé ne peuvent pas être le même. Donc je le cite, « L'individu pensant ne saurait se partager en deux, dont l'un raisonnerait tandis que l'autre regarderait raisonner. L'organe observé et l'organe observateur étant, dans ce cas, identiques, comment l'observation pourrait-elle avoir lieu ?» Alors, hier, je vous disais, chez Auguste Comte, une place très importante pour les questions d'instruction. Pour les questions, c'est pas seulement la science dans sa tour d'ivoire, c'est la science telle qu'elle doit, être finalement propagée dans la société. Et, évidemment, l'éducation, selon Comte, devra suivre cet ordre encyclopédique. Donc, cet ordre encyclopédique sera l'ordre, selon lui, devrait être l'ordre de l'éducation, c'est-à-dire commencer par les phénomènes les plus simples et les plus généraux en avançant ensuite vers le plus compliqué et le plus particulier. Et Comte s'appuie pour cela, donc nous l'idée sur les prolétaires, sur ce qu'il appelle le bon sens universel. Alors évidemment, ça n'est pas sans rappeler le l'incipit du discours de la méthode de Descartes, que nous évoquions déjà la fois passée. Quelqu'un avait demandé si Descartes peut-être était-il vraiment sérieux quand il écrivait ça ou pas. Alors c'est vrai que je pense qu'on pourrait éventuellement interpréter la phrase de Descartes comme étant un petit peu ironique, puisque évidemment elle ne s'arrête pas là, elle ne dit pas simplement le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais elle continue car chacun pense en être si bien fourvu que bon, chacun se fera son opinion, je ne vais pas trancher. Par contre, ici chez Comte, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'ironie décelable. Comte vraiment parle du bon sens universel de manière assez franche. Il souhaite qu'on propage dans la masse des intelligences, dit-il, les principales études scientifiques, pour que cette éducation universelle puisse constituer un vaste tribunal spontané formé de la masse des hommes sensés. Ça, c'est dans le discours aussi. On voit bien, ça s'oppose à Condorcet que j'évoquais tout à l'heure, qui disait « la science est son propre tribunal ». Auguste Comte dit « non, il faut instruire le peuple, et le peuple deviendra le tribunal de la science une fois qu'il sera instruit ». Et il dit, en fait, la classe la plus nombreuse, donc les prolétaires, c'est en fait, selon lui, la classe la mieux disposée à l'esprit positif. Donc il dit non seulement les prolétaires sont les plus nombreux et il faut en passer par eux, mais en fait c'est même eux qui sont le plus aptes à comprendre la philosophie positive. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, selon lui, l'éducation de son temps était très mauvaise, et donc il considère comme une bonne chose que les prolétaires aient peu d'éducation. Il dit le fait que les prolétaires aient peu d'éducation, ça veut dire qu'ils n'ont pas été déformés par des préjugés donc théologiques ou métaphysiques, et qu'ils jouissent en fait d'un heureux défaut de culture scolastique, qui leur permet d'être plus facile à former. Alors évidemment, c'est là qu'on voit que Auguste Comte, finalement, a des velléités prosélytiques. Quoi. Il veut convertir, évidemment. Auguste Comte, il dit bah, les plus faciles à convaincre, ce seront les prolétaires. Et c'est pour ça qu'il s'adresse beaucoup à eux dans ses ouvrages. Ils seront les plus faciles à convaincre pour faire éclore le positivisme. Alors, un dernier point, alors, je réduis un petit peu, j'avais un peu plus, mais... Un dernier point sur lequel je finirai. Il est quand même intéressant de mentionner que, donc à la fin de sa vie, dans la phase religieuse de sa pensée, Auguste Comte en viendra à considérer la morale comme étant la dernière science fondamentale. Donc comme déjà mettre, ça aurait le temps de regarder un petit peu la bibliographie, quelques ouvrages dont je me suis servi. Auguste Comte on viendra à considérer la morale comme la dernière science fondamentale, au-dessus donc de la sociologie, à rajouter dans la classification des sciences comme au-dessus de la sociologie. Et en effet, il dit qu'elle chapeautera les autres sciences, car en fait, elle est seule nécessaire. Seule, pour lui, le vrai but, c'est la politique, c'est la morale. Donc seule la morale est réellement nécessaire. Toutefois, la morale rend nécessaire la sociologie, parce qu'il faut connaître l'humanité. Pour faire une bonne morale, il faut connaître l'humanité. Donc la sociologie est rendue nécessaire. Et de même, la sociologie, elle rend nécessaire la biologie, Tout évidemment, tout en la limitant, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on peut refaire les flèches dans l'autre sens, alors. À chaque fois, comme ça, chaque science va être légitimée par la science supérieure, par la science suivante. Et donc finalement, ce côté moraliste de Comte sert aussi à justifier l'ensemble des sciences comme étant absolument nécessaire. Alors, certains noteront d'ailleurs que la morale est un peu la manière dont Comte va remplacer la psychologie en tant que science de l'individuel. Donc, les passions humaines, y compris au niveau de l'individu. Toutefois, il ne tombe pas dans le piège de l'introspection, puisqu'il s'agit d'observer les passions au dehors. Il ne s'agit pas de s'observer soi-même, l'introspection, mais d'observer les passions au dehors, voilà, afin de faire une morale. Et donc la morale, ça c'est le deuxième discours en particulier, le discours sur l'ensemble du positivisme qui doit s'en occuper, cette morale doit être systématisée, et pour devenir elle doit devenir le but de la philosophie, donc de l'organisation unitaire des sciences, en même temps qu'elle est le point de départ de la politique. On disait que les sciences, la philosophie devait servir à la politique, mais il rajoute finalement la morale un peu comme sorte d'intermédiaire. La morale systématique comme étant une application de la philosophie et un guide pour la politique. Alors très très vite, un dernier mot. Juste évoquer que voilà, il développe réellement alors dans la dernière partie de sa vie une morale fondée sur l'altruisme. Et c'est peut-être à vérifier, mais je pense que c'est lui qui crée le mot altruisme d'ailleurs, mot qui aura une belle postérité évidemment. C'est en 1854 dans le catéchisme positiviste. Alors là, il a quelques formules comme « Nul n'a droit qu'à faire son devoir », « Il faut vivre pour autrui », « Il faut vivre au grand jour ». Donc il y a vraiment une morale qui est basée sur un primat de la sociabilité sur l'individualité, donc on n'est plus dans le côté plus libéral, finalement, selon lui, des philosophes modernes qui en étaient restés à l'individu, mais ce qui est en fait, selon lui, une erreur métaphysique. Il faut vraiment passer à la sociabilité, à l'humanité au sens large. Et selon lui, c'est l'idée d'individu qui est abstraite, je le disais tout à l'heure, non pas celle de société. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que mon temps est presque écoulé. Donc voilà, je vous remercie.
Oui, d'abord, merci beaucoup, parce que je trouve vraiment que c'était passionnant et je suis sûr que ça ouvre sur des questionnements dans tous les sens. Alors, qui commence? Ah, c'est tout. Bon, au revoir. Non? Je me suis trompé? Oui, allez-y.
Vous parliez tout à l'heure de l'utilisation des prolétaires. Dans les sciences pour aider, juste pour faire en sorte que les sciences ne soient pas trop emmurées en elles-mêmes. Mais vous disiez qu'il y avait quand même des garde-fous. Donc j'aimerais bien que vous vous expliquiez un petit peu, oui, que ces prolétaires étaient quand même un peu, disons, limités dans leur action vis-à-vis des sciences.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, bon, après, une tension chez Comte, on voit qu'il est très. Ses ouvrages sont aussi destinés à convaincre, effectivement, à convaincre les prolétaires. Donc il se met volontiers de leur côté en leur disant que c'est eux leur cible, sa cible, effectivement. Mais malgré tout, je disais, il reste cette tension parce que ceux qui doivent guider la science, ce sont les philosophes. Au sens des spécialistes en généralité. Ce sont les philosophes qui doivent guider la science grâce à une vue d'ensemble. Et j'ai l'impression que les prolétaires servent un peu, finalement, de force sur laquelle vont s'appuyer les philosophes, Comte le premier, qui a vraiment besoin d'avoir les prolétaires avec lui pour avoir du poids. Et c'est pour ça qu'il s'adresse directement à eux. Mais je pense qu'effectivement, ce petit jeu-là, chez Comte, où il n'est pas. Je ne pense pas qu'il soit pour une dictature du prolétariat. Voilà, pour le dire comme ça, il y a malgré tout, effectivement, des philosophes qui doivent diriger la science, mais grâce finalement à l'appui du prolétariat, en ayant convaincu et converti le prolétariat à leur cause. Je pense que c'est plutôt ça.
Je continue mon petit tour. Hein. Oui.
Je vous remercie. Donc, ce que je vais vous demander, c'est compte avec le positivisme. Est-ce qu'il tient compte du subjectivisme dans certains de ses raisonnements? Ça, c'est la première question. Et suite à cela, je regrette un peu dans l'époque, dans les trois stades de l'époque métaphysique, je ne sais pas que je le regrette, c'est plutôt une question, vous parlez de l'abstrait. Or, nous devons bien constater qu'au XXe siècle, beaucoup de progrès scientifiques sont partis d'abstraction totale. Ah, Einstein, notre prix Nobel, la même chose. Hein. Il a fallu 50 ans pour s'apercevoir qu'en fait, il avait raison. Donc là, je m'étonne que Kant ne fasse aucun rapport à cette abstraction qui est devenue tellement importante, la réflexion dans l'abstraction, puisqu'il la place dans l'époque métaphysique, dirais-je. C'est un peu... un manque de réflexion, peut-être, ou peut-être c'était pas l'époque qui permettait de réfléchir à cela. Je vous remercie.
Vous pourriez préciser ce que vous entendez par subjectivisme ici?
Oui, entre positivisme, s'il faisait un rapport, s'il acceptait le subjectivisme comme étant une possibilité de raisonnement scientifique, en fait.
Non, je ne pense pas, effectivement. Non, le subjectivisme, effectivement, c'est assez étranger, finalement, à sa manière de concevoir les choses. Donc ça, je ne pense pas. Pour la deuxième question, pour l'abstraction, oui. Alors, effectivement, vous parlez d'Einstein. Einstein, en fait, était assez peu positiviste. Enfin, effectivement, je pense qu'il a des écrits où il explique que l'observation, en fait, est assez secondaire. Et que c'est vraiment le raisonnement, même mathématique, qui était prédominant. Maintenant, Kant effectivement se place dans son contexte du XIXe siècle, et ce qu'il appelle abstraction dans le cadre de métaphysique, c'est toutes ces abstractions absolument inobservables. Donc cette idée des forces cachées, donc la vertu dormitive de l'opium, etc., ces forces cachées qu'on ne peut absolument pas observer. Et même si chez Kant la théorie première vient en premier, en fait, est antérieure et est essentielle, l'observation l'est aussi tout de même. Tout de même, il reste l'idée chez Kant que on doit s'en tenir à l'observable, on doit absolument ne pas aller au-delà et tout justifier par l'observation, même si c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par l'observation, ça ne donnera rien. Il faut vraiment qu'on ait des théories préalables, mais ensuite, tout doit effectivement revenir à l'observation. Alors que l'histoire des sciences du XXe siècle lui est donnée tort, oui, ça peut être, je ne vais pas trancher, mais voilà, je pense que c'est cette distinction-là.
Si personne ne lève la main, moi j'ai envie de poser deux questions. Alors... D'une part, donc comme je l'ai dit en introduction, je connaissais très peu, et je m'interroge sur son virage. Alors j'ai bien compris que c'était évidemment pas votre sujet et que vous avez surtout parlé de ce qui précédait, mais quand je vois tout l'exposé de ce qu'il a fait avant, je me dis quand même, le type de religion qu'il a développé après, j'imagine que ça ne devait pas être simplement un retour, en tout cas pas dans son esprit, non. Au premier stade, à la théologie et à l'animisme, enfin au fétichisme. Donc je pense que de ce point de vue-là, j'ai un peu envie de comprendre. Alors, je rebondis sur votre question aussi en disant, ça m'a fait penser, donc ça c'est un autre élément, ça m'a fait penser cette question, en fait par rapport à Einstein en particulier, je pense que c'est aussi assez partagé. Si ça vous amuse, je vous conseille de lire l'extraordinaire correspondance qui a été publiée quand même, je dirais maintenant, il y a une vingtaine d'années, entre Einstein et Max Born. Donc Max Born est un des grands physiciens aussi qui a contribué à l'établissement de la mécanique quantique. Et ils ont correspondu pratiquement pendant 30 ans. Et donc, Born reproche, il se moque de temps en temps, ils étaient très amis, hein, il se moque de temps en temps d'Einstein, et il lui reproche d'être positiviste dans la première partie. Donc à un moment donné, pour être plus précis, au moment où, à la fin de sa vie, enfin, ou dans la seconde partie de sa vie, quand Einstein met en cause les postulats de la mécanique quantique et accuse la mécanique quantique d'être une théorie incomplète, ben c'est quand même à partir de 1925-1930, là, Born lui dit, maintenant tu es complètement réaliste. Et pourtant, au début de ta vie, tu étais complètement positiviste. Et je pense que c'est juste. Positiviste au sens où, effectivement, la fondation de la relativité, en particulier la première étape de la relativité restreinte, c'est une prise en compte des données expérimentales à un point tel, on les accepte tellement fort, qu'en fait, on arrive à mettre en cause les notions standards d'espace et de temps. Mais c'est pour des raisons expérimentales, évidemment, parce que sinon, il n'y avait pas de raison de le faire. Donc c'est vraiment pour... Et alors, la remarque que Born lui fait est tout à fait amusante. Il dit... il s'adresse à Einstein, et la dernière phrase de sa lettre, c'est « Jeune catin, vieille bigote ». Donc, en lui disant, en qualifiant son comportement. Donc, en disant, ouais, c'est comme ça qu'il le traite. OK, donc, oui, moi, oui. Je vais m'en tenir là.
OK. Donc, oui, pour répondre sur le côté religieux, alors, effectivement, moi, dans ce cycle qui est consacré à l'épistémologie et à la philosophie des sciences, évidemment, c'était l'essentiel, c'est de se concentrer sur la première partie, la première... phase de compte, la phase plutôt scientifique, philosophique, épistémologique, qui est ça évidemment qui nous concernait le plus. Maintenant, j'avais quand même préparé un petit quelque chose sur la religion à la fin, mais au cas où j'aurais le temps d'y arriver, ce qui n'a pas été le cas. Mais alors, ça va me permettre de vous répondre. Justement, je présentais un peu cette religion, la religion de l'humanité, d'Auguste Comte. Et en la défendant un petit peu précisément parce que malgré tout le côté finalement le côté cérémonial, religion avec des temples, avec des sacrements, etc. Malgré tout cela, comme son nom l'indique, la religion de l'humanité n'a pas de Dieu. Il n'y a aucune transcendance finalement. Il n'y a aucun Dieu dans cette religion. Et la foi qu'elle exige, pour autant qu'il y en ait une et qu'on puisse appeler ça une foi, est une espèce de foi démontrable. Une foi rationnellement fondée. Alors, il y avait des Comte parlait de missionnaires, mais de missionnaires, finalement, avec une mission éducative, comme des professeurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se laisser rebuter par tout ce vocabulaire religieux, par les termes employés. Ça reste bien une religion basée sur la science. Maintenant, effectivement, il y a eu... Comte, voilà, ne s'en est pas tenu, finalement, à une épistémologie, une philosophie des sciences, voire à une politique. C'est vrai qu'il a voulu un peu emporter l'adhésion plus loin, jusqu'à, effectivement, devenir fondateur d'une religion. Bon, il y a peut-être un peu, peut-être un délire de grandeur, chez Comte, où fait qu'il s'est fait quand même un peu prophète et apôtre, finalement. Mais malgré tout, le fond reste un peu le même. Alors, il y aura quand même des modifications, par exemple. L'espèce de dualisme en fait, complémentaire entre ordre et progrès se verra ajouter une troisième dimension qui est l'amour, simplement. Donc, ce ne sera plus ordre et progrès, ce sera amour, ordre et progrès. Donc, ça deviendrait une triade. La formule sacrée des positivistes était l'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. Et donc je citais rapidement dans le système de politique positiviste, il dit « En rapportant tout à l'humanité, ces trois appréciations générales tendent nécessairement à se confondre, car l'amour cherche l'ordre et pousse au progrès, l'ordre consolide l'amour et dirige le progrès, enfin le progrès développe l'ordre et ramène à l'amour. » Donc ça devient plutôt une triade, une tripartition presque, avec le côté effectivement amour, sentiment, moral. Il parlera du côté affectif, en plus seulement du côté politique et du côté spéculatif.
Merci. Je regarde quand même si vous n'avez plus de questions pour le moment. Peut-être elles viendront plus tard. Bon, ben alors il me reste vraiment très chaleureusement à remercier notre conférencier et à le féliciter pour son exposé qui était superbe. Merci beaucoup.